Nous avons chanté tout à l'heure avec des cris de joie. Et j'ai pensé qu'un samedi après-midi, ça serait le moment, surtout après un moment de digestion, de vous faire crier un peu. Alors préparez-vous, préparez vos voix. Et peut-être je demanderai même à Dominique sur les drums de nous assister, n'est-ce pas, au moment des cris. Nous allons faire du bruit. Voilà. Les psaumes 135 et 136 suivent immédiatement le psaume 134 qui a clos les 15 psaumes des montées que nous avons abordés ce matin. Les 15 psaumes chants des montées que les Juifs dans le monde entier sont en train de chanter cette semaine pour la fête des tabernacles. La thème de la célébration est au cœur de ce dernier psaume dans la série, le 134. Et c'est un peu comme si le psalmiste a dit, on a chanté les louanges de Dieu, mais il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter avec les 15. Et c'est ainsi dans le 135 et le 136, nous avons un louange exubérant, assez extraordinaire, que nous allons essayer d'apprécier ensemble. Les psaumes 135 et 136 sont en quelque sorte les psaumes jumeaux, parce qu'ils se ressemblent sans être identiques. Le psaume 135 et 136 se ressemblent par leur message. Les deux sont divisés un peu de la même façon en quatre sections. Et nous allons regarder maintenant le psaume 135. Merci à nos techniciens qui, avec leur souplesse et leur habileté, projettent. Merci. Nous allons lire le psaume 135 en remarquant les quatre sections de ce psaume 35 que nous allons retrouver dans l'extraordinaire, exubérante et criante psaume 136. Alors, ça nous prépare un petit peu. Lisons les quatre premiers versets. Louez l'Éternel. Oui, louez l'Éternel. Louez-le, vous, les serviteurs de l'Éternel, vous qui vous tenez dans le temple de l'Éternel, dans les parvis de la demeure de notre Dieu. Oui, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Et célébrez-le en musique, car il est digne d'être aimé. Voilà, c'est ce que nous avons fait. C'est l'invitation du psalmiste. Et maintenant, il donne deux raisons principales pour lesquelles Dieu est digne d'être aimé et que ça vaut la peine de crier, de chanter. Au verset 4. Il continue au verset 4. L'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, comme son bien précieux. Verset 5. Je sais bien pour ma part que l'Éternel est grand et que notre Seigneur surpasse tous les dieux, donc Dieu plus grand que les autres dieux. Verset 6. L'Éternel fait tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes, des confins de la terre. Il fait monter les brumes, il produit les éclairs au milieu de la pluie, il fait lever le vent et qu'il tenait en réserve. Dans ces versets 6 et 7, le psalmiste exalte le Dieu de la création et le Dieu qui domine sa création, juste du ciel jusqu'à dans les mers et les abîmes, les confins de la terre. C'est lui qui produit les éclairs, c'est lui qui domine cette création. C'est la deuxième section, la première section, où il appelle à la louange. Et maintenant, il donne la première raison parce que Dieu est le Dieu de la création. À partir du verset 8, le psalmiste chante Dieu, la gloire de Dieu, à cause de sa délivrance. Alors nous lisons. C'est lui qui a frappé les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Il a réalisé des signes extraordinaires et des prodiges en plein cœur d'Égypte contre le pharaon et tous ses serviteurs. C'est lui qui a frappé des peuples en grand nombre et qui a abattu des souverains puissants. On continue. Sihon, le roi des Amoriens, et Og, roi de Bazan, et tous les rois de Canaan. Puis il donna leur territoire en possession à Israël, son peuple. Ô Éternel, ta renommée demeure pour l'éternité, et d'âge en âge, l'on proclamera le nom de l'Éternel, car l'Éternel rend justice à son peuple, et il nous témoigne sa compassion à nous, ses serviteurs. Deuxième raison pour louer Dieu, c'est à cause de sa compassion, à cause de sa délivrance. Il a délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Il les protège contre leurs ennemis. Et puis, s'ouvre une section dans le psaume 35 que nous ne trouvons pas dans le psaume 36. C'est au sujet des idoles. Et là, il faut comprendre un petit peu que le psalmiste, il se moque un petit peu des idoles. Hein? On va essayer de le lire pour faire ressortir l'ironie de ce texte qui va du 15 au 18. Les idoles des autres peuples sont d'argent et d'or fabriquées par des hommes. Ils ont une bouche, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ont bien des yeux, mais elles ne voient rien. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Et pas le moindre souffle ne se trouve en leur bouche. Et là arrive le clou. Ils leur ressemblent, tous ceux qui les fabriquent. Vous voyez comment le psalmiste se moque un peu de ceux qui font des idoles. Aussi sourds, aussi muets, aussi aveugles que les idoles qu'ils fabriquent. Ils ressemblent et tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Et puis vient la conclusion, la quatrième section du psaume. Encore un appel à la louange. Au peuple d'Israël, bénissez l'Éternel, descendant d'Aaron, bénissez l'Éternel, descendant de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous tous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Béni soit l'Éternel depuis le mont Sion, lui qui réside dans Jérusalem. Alors c'est un appel vraiment très fort à la louange et à la célébration de notre Dieu magnifique par sa grandeur exprimée dans la création, magnifique par ses délivrances et par son soutien de son peuple. Comme je disais, le psaume 135 ressemble au 136. En introduction, le psaume 136, comme le 135 dit, « Dites merci au Seigneur, car il est bon. » Voyez la première section, un appel à la louange. Et dans la deuxième section de psaume 136, le psalmiste dit, « Dieu a fait des grandes lumières, le soleil pour gouverner le jour, la lune et les étoiles pour gouverner la nuit. » Vous voyez, on évoque la grandeur du Dieu créateur. C'est la première raison, la création. Et comme dans le psaume 135, le psaume 136 poursuit en parlant des délivrances d'Israël en faveur de son peuple. Psaume 136, « Par sa grande puissance, il a fait sortir d'Égypte Israël, son peuple. » Versets 11 et 12. Et comme pour le psaume 135, le psaume 136 termine par encore un appel raisonné à la louange. Louez le Seigneur au chapitre 135. Dites merci au Dieu des cieux, le 136. Mais même si leur structure est similaire, les deux psaumes ne sont pas identiques. Il existe une différence importante entre les deux psaumes. Et nous allons le regarder maintenant sur l'écran, le psaume 136. En quoi le psaume 36 est-il différent de tous les autres psaumes, les psaumes 115? Vous voyez, ils répètent tous inlassablement une phrase, la même phrase après chaque verset. Reconnaissons-le, une lecture silencieuse ou même une lecture à deux peut paraître un petit peu ennuyeuse. Ouais. Ça a tendance à ronronner. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce psaume. On répète, mais combien de fois est-ce qu'on va le dire, n'est-ce pas? Et arriver à la fin du psaume, c'est le ouf, n'est-ce pas? Ouf, on l'a dit les 20 et les 30 fois. Posons-nous la question, quel est l'intérêt de cette répétition, de cette litanie sans arrêt? Il y a quelque temps, un ami m'a invité à un match de hockey des Canadiens au Centre Bell. C'était un grand honneur qu'il m'a fait. Dans l'arène, avant et pendant le match, on criait un slogan. Hein? Voilà. J'allais vous poser la question et puis voilà. Go, Habs, go. Vous pouvez le dire? Go, Habs, go. Go, Habs, go. Et on ne compte pas, on ne dit pas, bon, ça, on l'a déjà dit deux fois, ça suffit. On continue. Imaginez un jeune enfant qui accompagne son papa au match et puis il entend pour la première « Go, Habs, go !» Il dit « Papa, qu'est-ce qu'on chante? Qu'est-ce qu'on crie? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'est au papa d'expliquer, n'est-ce pas, que c'est le slogan qui représente le grand espoir désespéré, peut-être que le Canadien va gagner, n'est-ce pas? Ah, oui. « Go, Habs, go !» Et le petit, il va commencer à entraîner, n'est-ce pas, avec les autres. Go, Habs, go. Et peut-être il va chanter dans la voiture en rentrant et, inlassablement. J'habitais en France en 1998, l'année où l'équipe française de football, de soccer, a gagné la Coupe du Monde. C'était le délire. Et l'un des cris slogans, c'était « Allez les bleus !» N'est-ce pas ?« Allez les bleus !»« Allez les bleus !»« Allez !»« Allez les bleus !»« Allez, bon, je... Nous avons crié et entendu ce cri jusqu'à ce que ça sortait du nez. Hein, vraiment. Les slogans deviennent parfois des refrains des chants. Après la victoire de la France, on a composé beaucoup de chants qui ont intégré le fameux slogan « Allez les Bleus » dans le chant même. Après la traversée de la mer Rouge qui libérait le peuple de l'oppression du Pharaon, comme nous l'avons dit hier soir, Myriam, la sœur de Moïse, a composé le refrain « slogan » à chanter avec le cantique magnifique que Moïse a composé. Et ce slogan, c'était très simple. Les chevaux et cavaliers dans la mer sont culbutés. Hein? C'est les chevaux et cavaliers dans la mer sont culbutés. On y va. Les chevaux et cavaliers dans la mer sont culbutés encore. Les chevaux et cavaliers dans la mer sont culbutés. Et vous imaginez, les adultes, les enfants, les jeunes, étant échappés de Belle d'une nouvelle esclavage qu'ils ont chanté ça à tue-tête, ils ont dansé, ils ont tourné en rond, ils ne se sont pas arrêtés de chanter ce chant qui a résumé tout ce que Dieu a fait. Et après la victoire de David sur Goliath, on a aussi scandé un slogan. Saül a battu ses 1000, David ses 10 000. Saül a battu ses 1000, David ses 10 000. Saül a battu ses 1000, David ses 10 000. Et vous imaginez tout le monde qui dansait pour la même raison, parce qu'Israël venait de s'échapper à cet esclavage, cette domination, cette oppression inévitable d'une victoire de Goliath. Pourquoi crier à répétition des slogans? Ce n'est pas juste pour se défouler. C'est parce qu'un bon slogan dit en résumé ce qui est très important, ce que nous portons dans notre cœur, le plus important. Regardons de plus près le slogan du psaume 136. L'amour de Dieu, car son amour dure à toujours. Il est difficile pour nous, les êtres humains, d'imaginer l'éternité évoquée par ce slogan. L'éternité de Dieu, sans commencement, sans fin. C'est une pensée qui nous donne le vertige. Avant et avant et avant, après et après et après. L'éternité a deux dimensions, deux étendues. Elle se réfère au passé. Le psaume 90, verset 2 affirme « De toute éternité, tu es Dieu ». Dieu depuis toujours, sans commencement. Et Moïse affirme aussi que Dieu ne cessera jamais d'exister. De toute éternité, tu es Dieu, et pour l'éternité, tu es Dieu. Le psalmiste nous invite à réfléchir au mystère de cette éternité, mais pas juste de nous faire étourdir l'esprit par ce que nous ne pouvons pas comprendre, mais de célébrer l'éternité de l'amour de Dieu. L'éternité de l'amour de Dieu est tellement extraordinaire que le psalmiste en fait un refrain slogan. Le refrain slogan du psaume 136 célèbre l'éternel amour de Dieu. Dans son passé éternel, avant et avant encore, Dieu nous a aimés. C'est une pensée qui nous dépasse. L'apôtre Paul confirme ce qu'on n'aurait même pas l'idée d'inventer, l'idée de l'amour éternel de Dieu pour nous. Il affirme en Éphésiens 1, verset 4, « Bien avant les fondations du monde, Dieu nous a aimés. » L'amour de Dieu est comme l'éternité. Il remonte plus loin que nous ne pouvons imaginer. Son amour est éternel au regard du passé. Et Jésus affirme l'éternel futur de l'amour de Dieu dans le texte bien connu de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Par son refrain, le psaume 136 nous invite à essayer d'imaginer l'inimaginable, à savoir l'éternité, pour nous rappeler la grandeur éternelle de Dieu pour nous. Mais sachant que l'éternité est un concept trop grand pour nous, le psalmiste propose les deux démarches que nous avons déjà vues pour nous aider à avancer dans notre compréhension de cet amour éternel et infini de Dieu. Sa première démarche concerne la création. Le psalmiste nous invite à considérer l'immensité de l'univers pour nous aider à apprécier l'immensité encore plus grande de l'amour de Dieu pour nous. Il a créé les cieux par son intelligence, dit verset 4, car son amour dure à toujours. Dans son commentaire sur ce psaume, Calvin pose la question: pourquoi Dieu a-t-il créé l'immensité de l'univers? Et il répond: pour nous convaincre de l'immensité de son amour. Dieu veut nous émerveiller par l'immensité de sa création pour que nous apprenions à nous émerveiller de son amour et d'y répondre. La création a été faite par Dieu avec l'intention de nous aider à comprendre la grandeur de son amour. De même, le rappel des délivrances successives de Dieu, décrites par la suite dans le psaume 136, à partir du verset 9, ont aidé Israël à apprécier à quel point Dieu l'aimait. Aujourd'hui, nous pouvons apprécier encore plus qu'Israël l'immensité de l'amour de Dieu à cause de la grande délivrance que Jésus nous a acquise à la croix. L'apôtre Paul affirme en Éphésiens 3: grande grâce à notre délivrance en Christ. Nous sommes à même de comprendre combien l'amour de Dieu est large, long, élevé et profond. Oui, nous sommes à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre. Paul dit, oui, on comprend un peu, mais on comprend finalement ce qui est incompréhensible par sa grandeur. Le psalmiste conclut le psaume 136 en précisant trois manières dont la grandeur de l'amour de Dieu se manifeste. Verset 23: il se souvient de nous dans notre humiliation. Dieu pense à nous dans notre vulnérabilité. Et au verset 24: il nous a délivrés de tous nos ennemis, car son amour dure toujours. Et enfin, le Créateur prend soin, pas juste de nous, hein, vous avez remarqué, il prend soin de sa création. Il distribue son pain à toute créature, car son amour dure toujours. Et en conclusion, oui, louez le Dieu des cieux, car son amour dure toujours. Ce psaume nous appelle à acclamer, à crier notre émerveillement devant l'amour éternel de Dieu. Alors, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut faire ça maintenant, en 2023? Et comment est-ce qu'on peut acclamer l'immense amour de Dieu avec ce psaume sans s'ennuyer, hein? Parce qu'il faut dire, après chaque verset, si on dit la même chose, ça commence à devenir comme une litanie. Alors, j'ai transcrit le psaume en strophes rimées et on va le projeter, mais je l'ai fait aussi une copie papier pour vous tous. Merci de les distribuer. Et comme ça, on va pouvoir le réciter ensemble. Vous remarquez tout de suite que dans ma transcription, je n'ai pas répété 25 fois « L'amour de Dieu est éternel », mais seulement 9 fois, pour que nos esprits occidentaux ne s'ennuient pas trop. Et les phrases sont rythmées et rimées. pour que ça nous permet de s'en rappeler. Alors, vous avez le texte devant l'écran, mais vous l'avez aussi imprimé. Vous pouvez le ramener à la maison. Alors, nous allons maintenant le répéter deux fois. On va le faire deux fois ensemble. Et ça vous donne l'occasion d'exercer vos voix, de réveiller les enfants qui dorment, peut-être. Ça va, tout le monde a son papier? Il y en a assez pour tout le monde? Voilà. Alors, pour la première répétition, vous pouvez partager. Pour la première répétition, je vais lire les strophes, les titres aussi, n'est-ce pas, qui sont soulignés pour rappeler les différentes sections que nous avons vues de ce psaume. Je vais lire les trois lignes et vous allez répondre avec beaucoup d'enthousiasme. Son amour est éternel. Pour la deuxième, c'est juste la répétition. On le fera encore mieux, mais on pratique. Donc, première section, dites merci à notre Dieu, versets 1 à 3. Sa bonté se renouvelle, Dieu des dieux universels, Seigneur des seigneurs fidèles. Et nous acclamons le Créateur. En des merveilles, il excelle, l'artiste qui créa le ciel, toutes ses splendeurs naturelles.
Son amour est éternel.
Galaxies exceptionnelles, dans leur cycle perpétuel, lune et soleil s'y attellent.
Son amour est éternel.
Et puis, la section sur la délivrance, rendez grâce, car le Sauveur a libéré Israël de son esclavage mortel par sa force et par son zèle.
Son amour est éternel.
Pour faire sortir Israël de l'Égypte au roi cruel, il traça une voie nouvelle.
Son amour est
éternel. Et la mer Rouge la révèle. Dans le désert, sur ses ailes, il les porte, les renouvelle. Il détruit des rois rebelles, donne au peuple, à Israël, héritage perpétuel.
Son amour est éternel.
Le Seigneur, Créateur et Sauveur, dans l'épreuve demeure fidèle, protège de qui nous harcèle, toute vie y renouvelle.
Son amour est éternel.
Louez le Seigneur du ciel. Alléluia. Maintenant, voilà, vous êtes échauffés maintenant. On va demander à certaines personnes qui viennent ici devant pour faire du bruit. Et ça sera la corde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire fonctionner les drums là, enfin, oui, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent venir taper sur... Tapez sur les mains, criez fort. Oui, ton bruit est éteint. Oui, c'est ça. Oui, allez-y. Allez, allez, c'est ça. Et puis qui joue au drums? C'est Dominique. Hein? Il n'est pas là.
Je peux le faire.
Oui, allez. Voilà, on a besoin d'un paire de percussions, n'est-ce pas? Voilà. Oui, tapez. Tapez les mains, tapez les pieds. Prends les chaises pour faire du bruit. Tout est permis. OK. Voilà. Voilà, ce sont les brillants. Et nous allons nous lever et nous allons dire les versets comme moi j'ai dit.
Les versets.
Son amour est éternel, il ne faut pas l'oublier.
Ouais. Okay.
Son amour est éternel.
Alors,
je vais dire les lignes soulignées pour nous rappeler les différentes sections. Et ensuite, nous allons dire ensemble les trois lignes. Dites merci à notre Dieu.
Sa bonté se renouvelle, Dieu des dieux universels, Seigneur des seigneurs fidèles, son amour est éternel.
Acclamez le Créateur.
En émerveillé, il excelle, l'artiste qui créa le ciel, toutes ses splendeurs naturelles, son amour est éternel.
Galaxie
exceptionnelle. Dans le ciel perpétuel, l'une soleil si appelle, son amour est éternel.
Rendons grâce car notre Seigneur
a libéré Israël de son esclavage mortel, par sa force et par son zèle, son amour est éternel.
Pour faire sortir Israël
de l'Égypte au roi cruel, il traça une voie nouvelle.
Et la mer rouge la rappelle,
dans le désert sur ses ailes, si les portes renouvellent, son amour est éternel.
Il détruit
les rois rebelles, donne un pays à Israël, héritage perpétuel, son amour est éternel.
Seigneur, créateur, sauveur,
dans les peuples de meurtrières, protège qui nous harcèle. Son amour est éternel.
Louez le Seigneur du ciel.
Son amour est éternel.
Amen. Amen. Bravo. Merci. Le message est très clair et nous le chantons, nous le crions pour ne pas l'oublier, pour ne pas oublier que l'amour de Dieu est éternel. C'est un message pour toi, pour chacun de nous, pour nos familles, pour nos églises, pour notre pays et même pour notre planète. C'est un message à proclamer à voix forte, et à porter dans nos cœurs, portons-le dans nos cœurs jusqu'à la fin de nos vies. Amen. Et bon après-midi. Oui, c'est un psaume qui nous demande, puisque c'était chanté, c'était entré dans les cœurs pour alimenter la méditation de tous ceux qui l'ont mémorisé, l'ont chanté. Et je pense que c'est le même défi, si je t'ai bien compris, Jean, que le défi de ce psaume, c'est de nous le faire pénétrer jusqu'à dans nos cœurs et de l'assimiler et de vivre vraiment dans la perspective de l'amour de Dieu pour nous. Je ne sais pas si ça répond. Hein. Tu peux.
C'était bien pour Israël à l'époque, mais nous, c'est d'autres événements. Peut-être qu'on finit que Dieu fait pour
nous
dans le jour.
Oui, c'est ça. Oui, ce que tu suggères, c'est que nous puissions aussi reprendre cette idée que Dieu a délivré Israël par le passé. Et il a fait beaucoup de choses pour nous aussi. Mmh. Oui. Et de ne pas les oublier.
Mmh.
Oui, de rendre personnel. Oui. En tout cas, c'est l'intention du psaume. Que non seulement que nous le chantions, que nous disions, voilà, c'est des belles paroles, mais de vraiment de les assimiler, de considérer leur pertinence et leur application pour nos vies, la vie de nos familles.
Il y avait d'autres questions pour Harold?
fait d'avoir des rimes, est-ce que ça veut transmettre quelque chose qu'il y avait dans le texte original? C'était poétique, mais est-ce que c'était des rimes?
Oui. Oui, c'est une bonne question sur la structure des psaumes. Les psaumes sont de la poésie, mais une poésie que nous ne connaissons pas. C'était une poésie par répétition. Vous avez des souvenirs peut-être des phrases dans les psaumes qui sont répétées. Demain, nous allons voir que Dieu a créé le ciel avec ses doigts et ses mains, n'est-ce pas? Donc, c'est pour répéter. Donc, il y a la répétition poétique que nous connaissons bien. Quand nous sommes émerveillés devant quelque chose, nous avons le privilège, Elisabeth et moi, de vivre au cinquième, quatrième étage, face ouest. Alors, nous voyons les couchers de soleil. Et des fois, je suis en train de travailler, Elisabeth dit, viens vite, voir. Et on cherche des mots. Oh, c'est super, c'est formidable. Et on cherche des mots et un mot ne suffit pas. Et c'est pourquoi on le dit deux fois avec deux mots. Hein. On dit, c'est super, ah oui, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de la nature humaine, le langage humain. Quand on voit ce qui est extraordinaire, de ne pas se contenter de le dire juste avec un mot. Alors, les Hébraïsans, les Israélites à l'époque, ils étaient très forts pour ça, pour dire, nous allons décrire quelque chose et il faut au moins deux mots. Alors, les deux mots ont constitué une sorte de répétition pour dire, c'est plus grand qu'un seul mot. Et même dans nos relations humaines, n'est-ce pas, on tombe amoureux et puis on appelle à la bien-aimée chérie et peut-être autre chose aussi. On ne se contente pas juste d'un mot. Ici en Occident, la poésie ne dépend moins de la répétition, mais notre oreille est très attentif et très sensible à la répétition du son. C'est-à-dire la rime. Presque tous les poèmes, presque tous les chants que les gens chantent sont rimés. Alors, c'est cette répétition du son qui permet à une idée d'entrer dans nos cœurs et nous aide aussi à la mémoriser. Et c'est pourquoi je prends la peine de transcrire quelques psaumes en forme rimée. Parce que ça correspond à notre sensibilité occidentale. Et je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans la répétition du psaume 136, quand il y a toujours le même son qui arrive, ça fait entrer l'idée plus facilement dans notre cœur. Voilà. Il y a eu des efforts assez extraordinaires par le passé dans l'Église. Dans les églises réformées de l'Écosse, appelées des églises presbytériennes, il y a eu un effort au XVIe siècle de transcrire tous les psaumes en forme rythmée et rimée. Et pendant 400 ans, ce sont ce format rythmé et rimé qui ont permis à l'Église de se nourrir de l'écriture. Alors, si on compare ces transcriptions avec une traduction très exacte, vous verrez qu'il y a un peu des variations, parce qu'il faut de la marge pour que les strophes arrivent à un rythme et à un rime cohérent. Merci pour votre attention. Vous êtes